J'ai parlé il y a deux semaines des habitudes, donc j'en reparle, en disant que nous nous forgeons des habitudes. Résumé de la prédication d'il y a deux semaines, pour ceux qui avaient raté l'épisode précédent, qui ne s'en souviennent plus tellement il y a longtemps que c'est passé. Et je dis ça sans ironie, parce que moi-même je ne me souviens pas parfois ce que j'ai prêché le dimanche d'avant. Donc voilà. Donc nous nous forgeons des habitudes, consciemment ou non, et en retour elles nous forgent aussi, consciemment ou non. Et je nous ai rapporté à ce que nous voyons des habitudes dans la vie de Jésus. Jean-Marc nous a proposé des textes de la lettre aux Hébreux. Je reste dans la lettre aux Hébreux. Elle parle à deux reprises de l'habitude. Je m'en tiens aujourd'hui à la première, au chapitre 5. Et en fait, je vise un double objectif. Commenter le texte, c'est l'essentiel. Et en même temps, essayer de nous faire sentir ce qui est en jeu dans l'habitude. Mais j'espère que ce sera plus clair tout à l'heure. Je commence la lecture au verset 8, donc du chapitre 5 de la lettre. Je lis dans la version du Semeur. Et le verset 8 nous parle de Jésus. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu, en effet, l'a déclaré prêtre selon la ligne de Melchisédek. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin, non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste. Car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Jusqu'ici, la lecture. Et je vous ai parlé d'habitude. Où est-ce que vous en voyez dans le texte? Où est-ce que vous pourriez peut-être l'imaginer? La pratique. Bonne réponse. En effet, il faut chercher le mot. Donc dans cette traduction-là, le mot n'apparaît pas, mais c'est bien le mot qu'on peut traduire par « dans la pratique ». En note, la Bible du Semeur signale aussi qu'on peut traduire autrement, on peut traduire « en raison de leur disposition ». Et je vais m'attarder en fait à cette traduction. Donc d'une part pour nous faire sentir ce que c'est l'habitude, mais ça j'y viendrai plus tard, et aussi pour nous faire entrer dans le texte, je l'espère. Donc ici en contexte, ici on traduit par disposition, une disposition à accueillir la parole biblique. Alors on pourrait dire, mais est-ce qu'il faut traduire par pratique, par habitude, comme dans certaines traductions, par disposition? En fait, le mot qui est employé ici dans l'original n'a pas d'équivalent français unique, et c'est vrai d'une langue à l'autre, c'est très rare qu'il y ait une équivalence à un mot qui rend exactement l'autre mot dans une langue, c'est normal. Et il peut désigner en fait plusieurs choses, dit le dictionnaire de grec ancien qui fait autorité, le Bailly. J'ai failli l'amener, mais il est énorme, je croyais qu'il était dans mon bureau, mais il est à l'étage sur une pile de livres, et j'ai dit non, je ne vais pas le chercher. Non, mais bon, si vous tombez sur le pied, vous le savez, ça, c'est une chose est sûre. Donc le Bailly nous dit que ça peut être l'action de posséder, ça peut être la possession d'armes par exemple, ça peut être aussi la manière d'être, l'état. Et à partir de ça, on dit que ça peut être l'habitude du corps, le tempérament, ou bien l'habitude de l'esprit, de l'âme. Et à partir de là, la faculté qui résulte de l'expérience. Et donc ça fait plusieurs possibilités, pas trop encore, mais bon, comment choisir? Et j'ai envie de dire, comment choisir quand on n'a pas l'habitude? ou quand on n'a pas la disposition, quand on n'a pas la pratique, quand on n'a pas la possession. Donc on est en plein dans le sujet. Comment est-ce qu'on fait quand on traduit? Est-ce qu'on fait au pif? Est-ce qu'on prend la chose qui nous plaît le plus? Ou bien, alors, non pas ou bien, c'est, eh bien c'est toujours, dans ces cas-là, si on veut traduire, c'est toujours le contexte qui permet de trancher. Un mot n'a pas de sens en lui-même. Enfin, il a une gamme de sens limitée, mais parmi cette gamme, au niveau du choix, c'est le contexte qui donne le sens. Et ici, dans le contexte, eh bien, j'ai l'impression de quelque chose qui n'est pas venu tout seul, mais qui a nécessité de passer par une croissance, par des étapes successives. Et on le voit bien avec le contraste entre le petit enfant et l'adulte. Et le contraste, l'auteur nous le fait sentir à deux niveaux. Il le fait sentir d'abord au niveau de la nourriture. Le petit enfant en bleu mange ou boit du lait. Il n'est pas en mesure, a priori, à l'âge de 2 mois, de manger une bonne tranche de steak. D'ailleurs, si vous mettez les doigts dans la bouche de l'enfant de 2 mois, normalement, il n'y a pas de dents. Donc, voilà. Donc, a priori, il n'a pas les dents pour le faire. Et je n'y connais absolument rien, mais alors rien du tout, en nutrition infantile. Mais sauf erreur de ma part, je ne crois pas que le reste du corps soit capable d'absorber le steak, si tant est qu'on est dans le malaxé avec un mixeur et qu'on le liquéfie d'une façon que je n'ose même pas imaginer. Donc première façon d'illustrer le temps qui passe et ce que le temps seul peut procurer, c'est cette nourriture, ce qu'on peut consommer. Et puis surtout, c'est là où l'auteur aux Hébreux est, c'est la trame principale. C'est ceux qui ont le contraste entre ceux qui en sont au rudiment de la parole de Dieu, d'une part, et puis ceux d'autre part qui ont une familiarité avec la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste. Ce qui veut dire la chose suivante, de mon point de vue en tout cas, c'est que si on traduit par disposition, ça peut être un peu délicat. Lisons la phrase, en raison de leur disposition, ils ont exercé leurs facultés. Parce que si on traduit par disposition, mais il ne s'agit pas d'être spontanément bien disposé ou pas très bien disposé. Bon, je suis disposé ce matin à exercer mes facultés. Ou je ne suis pas très disposé, peut-être que demain ça ira mieux. Si on entend disposition, si on choisit disposition, c'est plutôt comme on a disposé un lieu pour qu'il soit accueillant. Donc le résultat d'une construction. On a disposé les choses, on s'est disposé au fil du temps. Donc ici, c'est plutôt ça. Et c'est plus que ça. On peut traduire par la pratique, comme le fait le semeur. Alors là, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et j'ai envie de dire en même temps, oui, si on garde en tête que ce n'est pas une pratique qu'il faudrait contraster avec une théorie. C'est plutôt une pratique au sens où certaines choses ne s'acquièrent que par la pratique, par l'exercice qui est constamment répété, comme quand on joue d'un instrument de musique, comme quand on pratique un sport. Pour jouer, il faut avoir normalement fait ses gammes. Il faut pratiquer et pratiquer. Donc, disposition, pratique, et je reprends pas tout dans le détail, il y a aussi les autres possibilités, je passe pas en revue. Et en fait, la traduction la plus recommandée, il me semble, ça serait même pas habitude, qui a un caractère peut-être un peu figé, mais ça serait un mot qui n'existe pas beaucoup, enfin qui n'existe pas en français, je vais le dire comme ça. Mais rassurez-vous, c'est une bonne nouvelle, réjouissez-vous, il existe en latin. Je suis sûr que vous vous sentez mieux. Mais c'est le mot, en fait, c'est un mot qu'on emploie en français, mais très rarement, c'est le mot habitus. Et l'habitus, ce n'est pas exactement l'habitude. L'habitus, c'est la chose suivante, c'est la capacité à agir. Donc je suis capable de faire des choses qui se développent dans le sujet quand il agit. Donc plus j'agis et plus cette capacité se développe, et moins j'agis et moins ça se développe. Donc c'est une capacité, mais c'est une capacité construite, c'est une travaillée, remise constamment sur le métier, et qu'il s'agit encore et constamment de remettre sur le métier. Bon, mais en fait, voilà, si vous êtes perdu, c'est pas trop grave. Parce que c'est très simple, au bout du compte. La plupart d'entre vous, vous avez développé, enfin j'imagine, je sais pas, je fais l'hypothèse que la plupart d'entre vous, vous avez développé l'habitus de monter sur un vélo. Ou sur une moto. Mais si vous n'êtes pas monté sur une moto, si vous essayez de conduire avec, je pense qu'on voit très vite si on a l'habitus ou pas. Vous avez développé l'habitus de conduire une voiture, pour la plupart d'entre vous. Peut-être à parler une, deux, trois, davantage de langues étrangères, de jouer d'un instrument de musique. C'est tout simple de lancer un frisbee correctement, c'est-à-dire si je vise Lucie, il n'arrive pas, là-bas. Et c'est un habitus. C'est pas tout à fait une habitude, parce que on pourrait dire, mais la respiration, c'est une habitude. Mais si nous avons pris l'habitude de respirer, sauf cas grave de maladie, et l'actualité nous y plonge, mais on n'a pas vraiment appris à respirer. Ça s'est fait comme ça. L'habitus s'acquiert. L'acquisition d'une autre langue, la capacité de jouer ou de jouer de mieux en mieux d'un instrument de musique, la capacité de se servir de certains outils, c'est pas spontané. Une anecdote me traverse la tête, j'avais été frappé en randonnée il y a 2 ans, je crois, de voir, nous avons l'habitude d'utiliser des bâtons de randonnée, et ça paraît tout simple, on prend le bâton, on marche avec. Je voyais un petit gamin de 4 ans, j'en sais rien, mais il savait juste pas quoi faire avec. C'était à sa hauteur, mais il savait pas quoi faire, il savait pas comment s'en servir. C'est pas spontané d'acquérir ça. Pensez à l'instrument de musique. Il va falloir y mettre de son corps. Il va falloir ajuster ses mains. Il va falloir ajuster ses lèvres, son souffle. Et si ça devient naturel, entre guillemets, c'est une nature, mais c'est une nature apprise. Et si je me mets devant le piano, à la place de Luc, si j'essaie de reproduire vaguement ce que fait Luc, vous comprendrez que c'est pas Luc qui joue. Donc, c'est pas une habitude, c'est pas tout à fait comme une habitude. Et puis, avoir une habitude, on dit que ça se fait tout seul. Mais l'habitude, c'est différent aussi, parce que jouer d'un instrument, parler une langue, à la différence de respirer, c'est une capacité que vous êtes libre d'utiliser ou pas, que vous êtes toujours en choix d'utiliser ou pas. Et du coup, qui va se développer ou pas. Si je ne pratique pas l'instrument, la guitare ou autre chose, j'en resterai à cette capacité limitée à agir. Je saurai plaquer 3 accords de guitare, plus ou moins bien, et puis c'est tout. Je saurai faire le rythme que je sais faire habituellement, je saurai le faire 25 fois, sauf que ce rythme-là, il est adapté pour certains chants et pas pour d'autres. Quand j'ai fait le choix d'aller marcher, j'ai fait le choix. Mais c'est des problèmes de dos qui m'ont amené à le faire, donc bon, c'est un choix un peu imposé. Mais quand j'ai fait le choix d'aller courir chaque matin, le tour du lac qui est juste à côté, là, je me souviens de la première fois. J'ai couru 10 mètres. Et après, à présent, c'est devenu un habitus, une habitude. Mais c'est un habitus tant que je ne le néglige pas trop. Et pour illustrer, quand nous partons, nous allons en vacances, on va marcher. On marche pendant 2 semaines, 3 semaines, tous les jours, ça peut être 10 kilomètres, etc., on s'en fiche. Mais quand je reviens pour reprendre le tour pour courir, ça coûte. C'est pas la même chose. Étonnamment, c'est pas la même chose. Et l'habitus, il s'est atténué, là. Donc, l'habitus, voilà ce dont nous parle ce texte. C'est cette deuxième nature. Mais c'est une nature apprise. Ça ne s'improvise pas plus qu'on s'improvise à monter sur un vélo, sur des patins à roulettes. Je regarde Gilles qui était tombé, je crois. C'est un skate. Oui. Je ne suis jamais monté sur ces trucs-là. Patins à roulettes ou vélo, j'ai peur. Voilà. Donc je m'y risque pas. Pas plus que le vélo, la moto, si vous n'êtes jamais monté dessus. Le piano, la danse, Mais quand on regarde le danseur, quand on regarde l'artiste, quand on écoute le pianiste qui sait jouer, c'est tellement fluide qu'on a l'impression que c'est facile. Et pour celui qui fait le mouvement, c'est facile aussi. Enfin, il y a quelque chose qui est de l'ordre pour lui de la facilité à ce moment-là. Alors j'ai pris du temps et je vous ai peut-être saoulé avec l'histoire de la traduction, là. Mais la traduction, c'est la même chose. Que ce soit la traduction de la Bible ou non, d'ailleurs. Quand on lit le texte devant nos yeux, là, comme ça, on a l'impression que c'est facile. Quand on regarde un traducteur, on a l'impression que c'est facile. Mais c'est loin de l'être. Ça demande de l'exercice, ça demande de la pratique, ça demande de la disposition, de la possession de cet art qu'on appelle l'habitus. Parce que faire une traduction, eh bien, c'est comprendre le sens d'un mot. Et c'est bien pour ça que je me suis attardé. Il faut comprendre les mots dans la langue originale. Ici, c'est du grec. Donc il faut comprendre la langue, une langue que nous ne parlons plus aujourd'hui. Il faut comprendre aussi en français. En français. C'est pour ça que je me suis attardé aussi en disant la disposition, oui, mais si on entend une disposition comme quelque chose comme ça. Ou bien la pratique, oui, si on entend la pratique d'une certaine façon. Même en français, c'est pas évident de se comprendre les uns les autres, même quand on parle la même langue. Et quand on traduit, c'est la même chose. Ça demande des efforts pour peser des probabilités. Je reviens au texte ici, par exemple. Bon, on pourrait s'attarder sur chaque phrase, mais on s'en fiche. Dieu l'a déclaré grand prêtre selon la ligne de Melchizedek. C'est quoi une ligne? Pour quelqu'un qui connaît pas la langue, qui n'a pas la familiarité, c'est quoi une ligne? D'autres traductions, c'est la même chose, c'est selon l'ordre de Melchizedek. Mais c'est quoi l'ordre de Melchizedek? C'est qu'il a donné un ordre. Donc, ça va de soi. Ce que je veux dire, c'est que quand c'est présent en nous, cet habitus, ça va de soi. On ne voit même pas que c'est une difficulté. Mais c'est la même chose. Et par contre, quand on commence à expliquer, comme je l'ai fait tout à l'heure, un petit peu en détail, ça peut devenir pénible et voilà, ça paraît compliqué. Mais quand on l'a, ça se sent pas. Comme quand on monte sur un vélo et qu'on part sur un vélo, ça se sent pas. Ça se sait, on le sent, on l'a. Et on peut faire des choses avec ça. Pour le danseur qui a l'habitus de danser, c'est fluide, c'est facile, tant qu'il la cultive en tout cas. Mais quand on ne l'a pas, eh bien on peine. Et ça paraît très compliqué. Et je m'arrête enfin sur le texte, dans l'espoir, voilà, tout ça pour essayer de vous faire sentir ce que c'est. Parce que ça nous habite sur plein d'autres domaines. Et ici, ce qui préoccupe l'auteur de la lettre, eh bien, c'est l'absence, malgré le temps passé, d'un habitus biblique chez ses lecteurs. Et c'est là, pour lui, l'enjeu. C'est un sujet, dit-il, sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Malgré tout le temps passé, après tout ce temps, vous êtes devenus lents. Vous avez pris l'habitus peut-être de devenir lents à comprendre. Et j'imagine qu'il y avait un moment où ils étaient devant l'Écriture, avec l'Écriture. Ils étaient curieux. Ils avaient le goût, quand on ne sait pas, quand on a envie de découvrir, intéressés, motivés, engagés. Et avec le temps, là, tout s'en va. Et ils ne veulent plus, ou ils ne savent plus peut-être comment vouloir, comment faire. Leur fréquentation de la Bible, leur familiarité avec elle, s'est petit à petit, au fil du temps, comme étiolée, la capacité à s'y intéresser, à la méditer, à l'accueillir, la ruminer. Est-ce que c'est à force de se reposer sur les autres? Le texte ne dit pas, donc je lance des choses qui sont des hypothèses. Est-ce que c'est à force de se reposer sur d'autres, d'écouter d'autres en parler, de s'en tenir à dire Amen, ou bien à lire ce que d'autres écrivent, à laisser d'autres finalement organiser la foi pour eux? Est-ce que c'est à force d'être présent, mais d'une présence qui reste quand même extérieure, comme pour la plupart d'entre nous, quand Luc joue du piano, ben nous sommes extérieurs au piano. Nous sommes présents, mais nous ne sommes pas présents à l'instrument comme il peut l'être. Alors bien sûr, l'analogie a ses limites, parce que personne ne nous demande de jouer du piano, il suffit qu'il y ait un pianiste. Si on était tous en train de jouer du piano, ce serait compliqué. Mais j'aime bien cette analogie, parce qu'elle dit qu'il y a différents modes de présence. Il y a le moment où on est avec l'instrument présent à lui, tactilement, et le moment où on en est plus distant. Et ici, peut-être, je ne sais pas, 10, 20, 30 ans de vie communautaire, peut-être. Et l'auteur nous dit qu'il faut repartir à la case départ. Au fil du temps, une perte de familiarité, plus une inaptitude à comprendre. Et du coup, ça a des répercussions sur celui qui veut dire des choses, parce qu'il a du mal à expliquer. Ce qu'il aurait expliqué facilement, peut-être il y a 10, 20, 30 ans, eh bien là, c'est juste plus possible. L'auteur déplore donc que ses lecteurs n'en soient qu'à reprendre, qu'à ressasser la suite du texte précise. Oui, c'est là. Donc, à ressasser l'abandon des actes qui mènent à la mort, la foi en Dieu, la résurrection, le jugement, l'enseignement sur les différents baptêmes. Peut-être que s'il vivait aujourd'hui, il nous dirait, est-ce que nous en sommes encore constamment, finalement, à nous en tenir à ben, Jésus, et c'est important de croire en Jésus parce qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'essaie d'imaginer ce qu'il pourrait dire aujourd'hui. Et le reste, ma foi, ben le reste, ça n'a pas trop d'importance, ou bien c'est trop prise de tête. C'est bon, quoi. L'auteur les engage, et je crois qu'il nous engage, à méditer, ici, un texte dont peut-être plusieurs d'entre eux et peut-être d'entre nous ne savent même pas ou ne savent même plus qu'il existe et ne verraient même pas l'intérêt ou l'importance ni même de qui on parle, où c'est dans la Bible. Dieu, en effet, donc c'est une citation de l'Ancien Testament, Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre selon la ligne de Melchizédek. Melchizédek quoi ? Et il veut les engager là. Il les engage dans cette méditation et il va le faire sérieusement, parce qu'en fait il va le faire pendant deux chapitres. Et il les engage dans cette méditation, il nous engage, il engage les lecteurs, en faisant référence à Melchizédek, à prendre toute la mesure de ce verset qu'on aurait oublié facilement. Melchizédek, on en parle deux fois dans l'Ancien Testament. On en parle une fois dans la Genèse et on en parle dans les psaumes. C'est le texte des psaumes ici. Alors, on lit, on oublie, Il nous engage à prendre la mesure de ce qu'il y a derrière ces mots-là. Et l'enjeu, il est considérable. C'est que comprendre ça nous permet de comprendre, de saisir un petit peu plus qui est ce Seigneur et Sauveur, justement, duquel nous vivons, duquel nous dépendons. Et je suis touché aussi de sa démarche parce que elle me frappe, parce qu'il déplore cette absence d'un habitus biblique, cette inertie à laquelle il se heurte au moment où il veut expliquer, et en même temps, il ne les blâme pas non plus. Il espère qu'ils n'en resteront pas là. Il leur fait confiance. Il continue à expliquer, il va s'y atteler donc pendant deux chapitres, en espérant qu'ils n'en resteront pas là. Et j'ai envie de dire, c'est comme s'il espérait chez nous que, où que nous en soyons, et si nous sommes avec le temps bien éloignés, ou bien, comme s'il espérait aussi chez nous que nous n'en resterions pas là, nous non plus. Et pour ça, ben, il nous laisse la Bible entre les mains, pour nous aider justement à ne pas en rester là. Et si on lit l'ensemble de la lettre, je mesure combien c'est loin d'être désincarné, cette affaire. Parce que c'est de la relation au Christ qu'il s'agit. Et si on devait reprendre la lettre, qui fait depuis le début, et Jean-Marc l'a, je crois, au moins cité quelques passages comme ça, qui fait depuis le début appel à leur habitus biblique, parce que depuis le début de la lettre, il cite des textes, il rappelle à depuis la création du monde, il rappelle à ce qu'il devrait savoir, entre guillemets. Et l'enjeu, c'est au chapitre 1, c'est peut-être la façon de regarder les anges, parce que c'est des textes qui disent, auquel des anges est-ce que Dieu a dit ça? Non. Là, ben Jésus n'est pas comparable aux anges. Jésus est dans une autre catégorie. On ne peut pas dire d'un ange ce qui est dit dans ce texte. Ça ne s'applique qu'à Jésus. Donc c'est tout le chapitre 1. Et ça peut être la façon dont on va vivre sa piété. Si je vénère les anges, si je me prosterne devant les anges, aujourd'hui peut-être dans les courants du christianisme, mais aussi dans des courants qui n'ont rien à voir avec le christianisme, il y a une vénération, une admiration pour les anges. L'auteur aux Hébreux, mais les anges c'est une chose, mais le Christ, c'est une autre catégorie. C'est pour les lecteurs de la lettre, c'est leur rapport à, j'ai envie de dire, à une religion qui a bercé leur enfance, qui a structuré leur existence, qui a structuré leur habitus. C'est le rapport au judaïsme qui est en jeu. C'est la façon de regarder la foi juive qui est en jeu. Peut-être nous on s'en fiche parce qu'on n'a pas grandi dedans, parce qu'on ne connaît pas de juifs, etc. Mais ceux qui sont dedans. Mais c'est leur vie même qui est en jeu. C'est la façon de considérer tout ce qui a tissé leur histoire qui est en jeu. La façon de, j'ai envie de dire, de considérer leur héritage culturel, leur héritage religieux, social, les valeurs qui sont les leurs. Et à travers ça, c'est la façon de regarder Dieu, la façon de considérer la relation à Dieu qui est en jeu. Pour les Juifs, et dans la lettre, les sacrifices qu'on doit ou non lui offrir, et pour la façon d'organiser sa vie, au bout du compte. Et dans le passage que je ne lirai pas, mais qui sera projeté en petit caractère, c'est la façon d'accéder au salut qui est en jeu, en fait. Derrière tout ça, derrière le rapport au judaïsme, derrière cet habitus biblique, tout ce que je vais vous dire, ça tient en ça, derrière cet habitus biblique, voilà ce qui se joue. Derrière sa présence ou derrière son absence. Derrière sa présence ou derrière sa négligence. C'est le fait ou non de rester ou de redevenir des enfants, mais peut-être pas au sens où Jésus aurait souhaité que nous devenions des enfants. Ou c'est la façon de devenir ou de rester des adultes dans la foi. Et le texte le montre ici aussi. Ah, j'ai perdu. Il est question de vie juste à un moment donné, je ne sais pas, voilà. Ouais. C'est la question de la vie juste qui est en jeu, pour eux et pour nous. C'est la mesure de ce qui est la justice. L'auteur fait confiance, et peut-être si nous sommes prêts à entrer dans la confiance à laquelle il nous invite, alors les paroles qu'il prononce ici nous concerne. Même si nous tenons un tel langage, donc il parle de ce qu'il vient de leur dire, vous êtes des enfants, vous êtes, c'est pas sérieux quoi. Enfin, non, là je suis trop déçu, parce que s'il y a quelque chose de ça. Même s'il déplore, il dit, même si nous tenons ici un tel langage, nous sommes convaincus que dans ce que nous venons de dire, vous êtes du bon côté, celui du salut. Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui, dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, je vous invite à nous approprier ces paroles et à entendre ce souhait et à y donner suite, chacun à sa mesure dans son histoire. propose juste un moment de silence. Nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Amen.